Merci aux préados et aux personnes qui les ont accompagnés dans toute la préparation, l'organisation de ce culte, de cette première partie de culte qu'ils ont conduite. Merci aussi aux musiciens et soutien aux chants ce matin. Juste un petit mot de pré-introduction pour dire que la prédication qui va suivre, je l'inscris dans la continuité de celle qui remonte à il y a 2 mois, le 19 avril, où les préados étaient également présents. C'est pour ça qu'il y a tant d'écart entre les deux. D'habitude, les préados vont au Mazet pour un temps d'enseignement. Et là, le 19 avril, ils étaient avec nous pour un premier volet sur la thématique que j'aborde aujourd'hui, et aujourd'hui c'est un deuxième et dernier volet. C'était pas nécessaire d'être là le 19 avril, ou même si vous ne vous souvenez absolument de rien, vous pouvez à la limite retrouver la prédication sur le site internet. Mais voilà, c'était juste pour remettre un petit peu de contexte. À laquelle de ces activités sportives pourrait-on comparer la vie chrétienne? Un sprint, 100 mètres, court, bref. On rajoute 10 mètres et quelques petites haies. Un peu plus long, toujours dans un stade, avec un 3000 mètres steeple. Un marathon. Un trail. Il y a de quoi faire des beaux trails dans la région, ici. Contrairement à un sprint ou les deux premières courses que j'ai évoquées, là, qui demandent un effort sur un temps relativement court, il me semble que la course de fond conviendrait plutôt mieux. Une course de fond comme un marathon ou comme un trail, hein, les deux images qui sont sur la droite ici, ces trails qui sont des courses en... même parfois aussi le marathon, hein, qui sont des courses en pleine nature sur des distances assez longues, 20, 50, 80 km, et même parfois au-delà des 150 km, avec des montées, des descentes. Ce sont des courses assez fatigantes pour l'organisme, pour le mental aussi, beaucoup d'épreuves. Et les athlètes doivent beaucoup s'entraîner pour garder la forme, pour garder le physique, pour garder aussi le mental. Ils s'astreignent à une discipline, donc la thématique du 19 avril, la discipline pendant toute la préparation pour se donner les moyens de terminer ce marathon ou ce trail, cette course. Et la vie chrétienne, c'est un peu comme une course de fond qui requiert de la volonté, du combat, de la discipline. D'ailleurs, le Nouveau Testament évoque à plusieurs endroits l'image de la course pour décrire la vie du disciple de Jésus. En tant que disciples de Jésus, nous sommes invités à nous exercer à la discipline qui conduit à la piété, cette piété qui est la consécration personnelle à Dieu, l'obéissance à Dieu, l'attachement à Dieu dans toutes les circonstances, comme on vient de le chanter, les bonnes mais aussi les mauvaises. La dépendance à Dieu. L'apôtre Paul a dit à Timothée, en 1 Timothée 4, verset 7, « Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. » S'exercer à la piété, c'est apprendre à vivre d'une manière qui honore le Seigneur. Et nous avons besoin pour cela de discipline dans notre vie chrétienne. Cela requiert de l'effort. Peut-être dans certains domaines, telle personne pourrait être née avec un avantage naturel. Par exemple, un sportif de haut niveau peut être né avec une condition physique assez exceptionnelle. Un judoka, un basketteur, 2,05 m, bon, ça aide un petit peu. Un musicien être né avec l'oreille absolue ou des aptitudes particulières, et j'en passe. Mais qui pourrait prétendre posséder une supériorité spirituelle innée? En fait, s'il y a bien un domaine où nous sommes tous égaux, c'est d'être nés dans la condition d'être humain marqué par le péché. Et il n'y en a pas un qui soit avantagé ou désavantagé par rapport aux autres. Dans cette condition même du péché, nous venons dans ce monde avec cette marque du péché en nous. Et donc, en tant que disciples de Jésus, nous avons besoin de cet exercice à la piété, et donc décrit dans le prolongement de ce que je disais le 19 avril, décliné par la discipline spirituelle pour avancer avec notre Dieu en comptant aussi, c'est important, sur sa grâce, en comptant sur sa grâce. Et ce matin, j'aimerais décliner avec vous la discipline spirituelle d'une manière générale en plusieurs disciplines en nous inspirant justement de cette illustration ici de l'athlète qui court sa course de fond, que ce soit un marathon ou un trail. Parce que tout comme les organes du corps humain sont soumis à rude épreuve dans la course de fond, de même, chacune de ces disciplines spirituelles pourrait être représentée par un organe de notre corps. Et il y en aura 7. Je commence avec le cœur. Le cœur, c'est ce qui est au centre de la course à pied. Sans cœur, pas de vie, pas de sang qui vient pour irriguer les organes et amener l'oxygène pour produire l'effort. Je ne connais pas de coureur non plus qui n'aime pas son sport. Peut-être qu'il va y avoir des moments plus difficiles, mais en tout cas, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, qu'il a dans le sang. Il a cet amour pour son sport. Et bien de même, sans un cœur qui aime, que serait la vie chrétienne ? Sans un cœur qui aime ? L'amour est à la base de tout ce que nous accomplissons en tant que disciples de Jésus-Christ. Et c'est en retour de ce que Dieu a fait pour nous que nous allons agir aussi et que nous allons aimer. Jésus a dit en Marc 12, « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second, le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. » Le disciple de Jésus aime, il aime Dieu, il aime son prochain d'un amour qui peut aller jusqu'au don de soi. Aimer, c'est se donner à l'autre et pour l'autre. C'est bien plus que simplement dire « je t'aime ». C'est aimer en acte. J'y reviendrai. Donc la discipline de l'amour, le cœur même du message de la bonne nouvelle de Jésus, c'est le don de soi. Dieu s'est donné pour nous en la personne de son Fils Jésus-Christ sur la croix, mort pour nous, pour porter notre péché, pour porter nos fardeaux, pour porter notre condamnation. Est-ce que nous aimons Dieu ? Et si nous aimons Dieu, est-ce que nous aimons également notre prochain ? Notre camarade de classe qui se moque de moi ? Ce collègue de travail qui a le caractère un peu irritant ? Je ne parle pas de mon collègue. Ce voisin qui ne gère pas ses poubelles comme on aimerait. Ce conducteur qui roule un peu trop lentement. Et des points de suspension. Est-ce que nous aimons également notre prochain ? Première discipline, donc, le cœur pour représenter l'amour que nous sommes invités à avoir pour Dieu et pour les personnes autour de nous. Deuxième organe, l'estomac. Nul doute que si le coureur de fond veut tenir la course, il a besoin de bien s'alimenter avec des aliments et des boissons qui sont riches en énergie. De même, en tant que disciples de Jésus, nous devons veiller à nous alimenter de tout ce qui est bon pour notre âme. Tout ce qui est bon pour notre âme, comme l'a dit Enzo, tout ce qui est bon pour notre être intérieur. Paul dit ceci dans Philippiens 4, verset 8. Frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et qui mérite louange. Je ne crois pas me tromper en disant que Robert du Barry a dit ceci, il faut penser sainement pour vivre saintement. Il faut penser sainement pour vivre saintement. Apprenons à discerner ce qui est bon pour notre âme, ce qu'il y a au fond de nous, et à discerner aussi ce qui peut lui nuire. Peut-être qu'il y a des priorités à mettre, voire même parfois du tri à faire dans ce que nous regardons sur les sites de streaming, au cinéma, dans nos loisirs, dans nos fréquentations, dans nos lectures même peut-être. En tant que disciples de Jésus, il nous faut veiller sur ce avec quoi nous allons nourrir notre âme, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que nous mettons dans notre estomac spirituel, si on peut dire les choses comme cela? Une bonne alimentation, la meilleure qui soit, se fera par le moyen de la lecture, de la parole de Dieu, de la Bible. L'apôtre Pierre dit ceci, « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. » Donc, la discipline de la Bible par la lecture, par l'étude, par la méditation de la Bible, de la parole de Dieu. Le cœur, l'estomac, les poumons. Inutile de dire combien les poumons sont importants, sont sollicités dans la course de fond. Combien de fois il nous est arrivé de dire, en courant, « J'en peux plus, j'ai plus de souffle, plus d'air. » De même, en tant que disciples de Jésus, nous avons besoin d'oxygène pour notre vie chrétienne. Et cet oxygène, c'est la prière, la discipline de la prière. Pas seulement la prière dans laquelle on demande des choses à Dieu, mais aussi la prière où simplement on s'adresse à Dieu pour le remercier pour qui il est. Ce qu'on pourrait appeler la prière d'adoration. Ou la prière de louange pour dire à Dieu « Mais merci pour ce que tu fais ». Pourquoi est-ce que la prière personnelle, régulière, est-elle si importante pour notre vie chrétienne? Parce que la prière nous connecte à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. C'est aussi l'écouter. La Bible nous invite à maintenir une relation constante avec notre Sauveur et Seigneur Jésus. Et cela passe par la prière, notamment. Chaque fois que nous prions, c'est comme si nous rechargions nos batteries, parce que nos batteries peuvent être à plat. Et je pense que ça nous est tous arrivé à un moment ou un autre de passer par des hauts, par des bas, dans la vie chrétienne. Et alors on se décourage, le doute peut arriver, et parfois même on peut s'éloigner du Seigneur. La prière nous est donnée justement pour qu'on puisse puiser en Dieu, surtout quand la prière est conjointe à la parole. On puise et on fait marcher ensemble l'estomac et les poumons. Je mets des guillemets, bien sûr, ici. La prière, la parole de Dieu ensemble, pour puiser nos forces en Jésus, en notre Dieu. Regardez dans les psaumes combien de fois le psalmiste rappelle à son âme combien le Seigneur est son soutien, sa force, son rocher. Le psaume commence, tout s'ébranle sous ses pieds et il le finit fort parce qu'il s'est rappelé dans la prière ce qui est ce qu'a fait le Seigneur. Toute la première partie d'ailleurs que les préados ont conduite tout à l'heure met en exergue la bonté de Dieu et bon nombre de ce que Dieu est et de ce que Dieu fait pour nous. Les premiers disciples, nous lisons dans Actes 2, les premiers disciples s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Est-ce que nous avons conscience à quel point la prière est importante? Bien sûr, la prière individuelle, et aussi, comme on le voit dans ce verset, cette prière les uns avec les autres, parce que Dieu nous invite à nous en saisir. C'est une grâce qu'il nous fait, ne nous en privons pas. L'oxygène que nous respirons est pour les poumons ce que la prière est pour notre âme. Alors, persévérons dans la prière, car l'oxygène que nous respirons est pour les poumons ce que la prière est pour notre âme. Le cœur, l'estomac, les poumons. Quatrième mot, la peau. La peau est soumise à rude épreuve dans la course de fond, à tel point que, ça on ne le sait pas toujours, quand on fait du 100 mètres, on ne s'en rend pas bien compte, mais quand on commence à faire des longues distances, on comprend pourquoi les athlètes de l'Antiquité couraient souvent nus, pour ne pas être embarrassés par les vêtements souvent amples, pour ne pas se casser la figure, pour ne pas aussi générer des frottements contre la peau. Et de nos jours, les athlètes portent des habits qui leur collent à la peau pour éviter justement ces frottements et accessoirement pour éviter de courir nu. Ça donne un effet, comme on le voit ici, un effet seconde peau, ça colle. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit ceci, Hébreux 12, verset 1, « C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. » On retrouve l'image de la course à pied ici. En tant que disciples de Jésus, nous sommes invités à nous débarrasser de tout ce qui peut freiner notre avancée, notre marche, notre course chrétienne, notre avancée dans ce monde. Tout ce qui est en trop, tout fardeau. Et le texte désigne ici ce fardeau comme le péché qui nous cerne si facilement. Ailleurs, l'apôtre Paul nous invite à renoncer, à nous dépouiller, à nous dévêtir de notre ancienne manière de vivre pour adopter, à revêtir, apprendre à vivre d'une nouvelle manière qui est selon la volonté de Dieu. Avec cet organe de la peau, je veux parler ici de la discipline du dépouillement, au sens de renoncement, se dépouiller, renoncer à. On a besoin dans notre marche avec le Seigneur de renoncer. Posons-nous la question, mais qu'est-ce qui alourdit notre marche ? Qu'est-ce qui alourdit votre marche ? Avec quel péché peut-être est-ce que vous êtes en train de lutter ? Est-ce que même vous luttez ? Parfois, face à tant et tant de récidives, on finit par se dire, de toute façon, ce péché fait tellement partie de ma vie que je n'arriverai pas à m'en défaire. Mais l'exhortation ici dans Hébreux 12 requiert que nous rejetions le péché qui nous enveloppe, qui nous cerne si facilement de tous côtés. Est-ce que nous mettons tout en œuvre pour nous débarrasser du péché ? Un peu comme ce coureur de fond qui évite justement les frottements, les choses qui vont le freiner. C'est une lutte, c'est un combat. Ça demande des efforts. Le cœur, l'estomac, les poumons, la peau et maintenant les yeux. Un coureur de fond aura les yeux qui sont fixés sur l'objectif, sur le but, sur la fin de la course. Il pense à la récompense qui l'attend, ou même tout simplement à la satisfaction de se dire « j'ai accompli, j'ai réussi, je suis allé jusqu'au bout de ce marathon, de ce trail, de cette course ». De même, en tant que disciple de Jésus, dans le prolongement du verset que nous avons lu juste avant, le Hébreux 12, verset 1, il y a ce verset 2 que je lis maintenant. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il, Jésus, a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Dans le verset 1, nous avions lu juste avant qu'il est question de cette si grande nuée de témoins qui sont en fait toutes ces personnes qui sont mentionnées dans le passage précédent, dans le chapitre 11. C'est pour ça qu'il y a ce petit mot de liaison là. C'est pourquoi au verset 1, il y a tous ces témoins, tous ces fameux héros de la foi qui sont là et qui nous disent tout ce par quoi ils sont passés, qui viennent pour nous encourager dans notre marche avec le Seigneur. Ils sont là sur le bord de la course et ils nous disent « Je suis passé par là, j'ai tenu bon par la foi, tu peux y arriver aussi. » Ils nous encouragent. Regardons à ce qui est devant nous. Gardons intacte l'espérance de la vie éternelle qui commence cette vie dès maintenant dans la vie présente. Je veux parler donc ici de la discipline de la foi. Tout comme les efforts que l'athlète doit fournir quand il en peut plus, qu'il atteint ses limites et qu'il a les yeux fixés sur le point d'arrivée et qu'il arrive à sortir des forces dont on ne sait d'où et il persévère jusqu'au bout, et bien de même, les épreuves que nous traversons dans la vie présente, par la grâce de Dieu, nous pouvons les surmonter en repensant à ce que Jésus a fait pour nous et dont il est question dans ce texte d'Hébreux 12, verset 1 et en particulier le verset 2. À repenser à ce qui nous attend dans le ciel, où précisément Jésus est allé et où il trône, il siège à la droite de Dieu. La discipline de la foi. La foi en toutes circonstances. Le cœur, l'estomac, les poumons, la peau, les yeux et maintenant les mains. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que les mains viennent faire là-dedans, dans la course à pied ? Essayez de courir les bras le long du corps. C'est pas simple. C'est très fatigant. Les mains, les bras, les épaules ont beaucoup plus d'importance que ce qu'on pourrait penser. Ça sert à l'équilibre, ça sert à produire les efforts, ça sert à gravir des montées, à s'équilibrer quand on descend, etc. Et bien de même, en tant que disciples de Jésus, nos mains sont là pour traduire concrètement en actes notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Pour accomplir par le service toutes sortes d'œuvres bonnes auxquelles nous sommes appelés. L'apôtre Paul écrit ceci à Tite : Je veux que tu insistes fortement sur ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Nous ne sommes pas sauvés, et c'est important de le rappeler, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres et en particulier les œuvres bonnes que nous accomplissons, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu en vue d'accomplir des œuvres bonnes que Dieu a préparées à l'avance pour que nous les pratiquions. Comme on le lit dans Éphésiens 2, versets 8 à 10. Les œuvres bonnes sont des œuvres qui plaisent au Seigneur, qui sont pour le bien de ceux et celles qui nous entourent, qui sont faites avec générosité, de manière désintéressée, et dont, là encore, l'amour en est le moteur. C'est le cœur, c'est l'amour qui est mis en action en faveur de ceux et celles qui sont autour de nous. Des mains qui sont donc au service d'autres, des autres. Je veux parler ici de la discipline du service. Cultivons, continuons de cultiver l'esprit de service, un esprit de service, pour nous mettre au service des personnes qui sont là et de le faire de manière désintéressée. C'est le message qui est au centre de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le don de soi. Jésus s'est donné par amour et il nous invite à nous donner nous aussi et à le traduire, cet amour, en actes concrets et bons. Et je termine avec une dernière discipline par l'organe des pieds. Inutile de dire que les pieds sont importants et les jambes dans la course de fond, ça va de soi. Ils sont d'ailleurs sérieusement mis à l'épreuve. L'apôtre Paul dit ceci en Romains 10, verset 15. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Dans le contexte, justement, de l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans notre vie chrétienne, en tant que disciples de Jésus, est-ce que nos pieds sont zélés pour ceux et celles qui ont besoin, justement, autour de nous, d'entendre cette bonne nouvelle de Jésus, ce message du salut? Parce que si personne n'annonce l'Évangile, comment les gens autour de nous vont-ils entendre ce message? Et dans le contexte de Romains, c'était celui-là. Si personne n'annonce l'Évangile, en particulier au peuple juif dont il est question dans ces chapitres 9 à 11 de Romains, comment ces personnes vont-elles se convertir? Relisons la mission que Jésus a confiée à ses disciples avant de retourner vers le Père. Jésus dit « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus nous envoie en mission, nous disciples, pour faire d'autres disciples, qui vont à leur tour faire d'autres disciples, parce qu'ils auront été enseignés dans tout ce que Jésus a enseigné lui-même, a prescrit. Et dans tout cela, Jésus nous a promis qu'il est présent par son esprit à nos côtés. C'est la discipline ici du témoignage. Comment va votre cœur ce matin? Si vous aimez le Seigneur, est-ce que vous aimez aussi, là, les personnes que le Seigneur a placées à vos côtés dans votre quotidien? Comment va votre estomac? Est-ce que vous le nourrissez de la bonne alimentation, de tout ce qui est bon, du lait pur, de la parole de Dieu? Comment vont vos poumons? Est-ce qu'ils reçoivent cet oxygène spirituel qu'est la prière régulière dans l'intimité avec le Seigneur? Comment va votre peau? Est-ce que vous travaillez à renoncer à l'homme ancien avec toutes ses manières de vivre pour revêtir l'homme nouveau, cette seconde peau qui va coller à la volonté de Dieu? Comment vont vos yeux? Est-ce qu'ils sont troublés par les soucis de la vie, par les épreuves, par les moqueries? Ou bien sont-ils toujours fixés avec foi sur le Seigneur et sur le Seigneur qui trône à la droite du Père? Parce que le Seigneur a donné sa vie sur la croix, oui. Il est mort, oui. Il a été enseveli, oui. Mais il est ressuscité et il est retourné vers le Père. Et de là, il règne en souverain. Et c'est ce Dieu-là en qui nous avons placé notre foi. Il trône dans le ciel. Comment vont vos mains ce matin? Est-ce qu'elles sont disponibles pour servir, pour des œuvres bonnes, des œuvres qui honorent le Seigneur? Comment vont vos pieds? Est-ce qu'ils sont zélés pour aller et pour proclamer, annoncer ce que Dieu a fait, et pour accompagner d'autres à faire leur premier pas dans la vie chrétienne. J'ai volontairement mis le cœur en rouge ici, car il est au centre de tout le reste, il est le moteur qui vient donner sens à tout ce qui est autour. La vie de disciple de Jésus requiert la discipline, l'effort, le courage dans chacun de ces domaines pour que nous ressemblions toujours plus à Jésus-Christ qui nous a sauvés, qui a donné sa vie pour nous. Alors mes bien-aimés, courons cette course qu'est la vie chrétienne en ne négligeant aucune de ces disciplines. Amen.